Raymond Richard, avec Isabelle Conant, nous vous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi. Alors dans notre dernière émission, à partir d'une nouvelle formulation des prières dans le missel, cela nous a amené à voir que finalement, depuis toujours, la Bible a été écrite, réécrite, réappropriée. Et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes à plus de 2500 traductions, parce que c'est le livre le plus traduit et le plus vendu dans le monde entier. Et il y a toujours un travail qui se fait pour traduire la Bible en langue vernaculaire. La langue de tout le monde, la langue des gens qui sont là. Alors, dans certains cas, c'est dans un dialecte indigène ou bien dans un dialecte ethnique pour une région d'Afrique, par exemple. Et aujourd'hui encore, il y a une nouvelle traduction œcuménique de la Bible, une nouvelle édition de la TOB, eh bien là aussi, ces traductions sont enrichies par les découvertes archéologiques, sont enrichies par la nouvelle compréhension que l'on fait de ces découvertes. Par exemple, dans les manuscrits de Qumran, on a découvert des écrits en araméen. Eh bien, la meilleure compréhension de ces écrits en araméen explique certains aspects qui étaient restés un peu plus mystérieux dans les évangiles. Donc, on voit que constamment, il y a ce travail de réappropriation, de confrontation avec des découvertes archéologiques ou bien avec le travail que font aussi les gens qui sont proches de ceux qui reçoivent la Bible. Parce que la Bible, ce livre, on peut le lire effectivement comme un instrument culturel, très bien, mais beaucoup le lisent encore comme un instrument qui annonce Jésus-Christ, et Jésus-Christ s'annonce aux gens de notre époque dans les termes de notre époque. Donc, la traduction de la Bible doit tenir compte aussi des gens auxquels elle s'adresse.
C'est vrai que les exégètes d'aujourd'hui vont tenir compte effectivement du
de
moment,
leur public.
Voilà, et du moment aussi de l'écriture, au moment où ça a été écrit. Donc, à qui ça s'adressait et par qui ça a été aussi écrit.
Voilà, il faut tenir compte du passé, ce que vous venez de dire, et puis aujourd'hui, à qui ça s'adresse.
On peut donner comme exemple la lettre de Saint Paul à Philémon.
La lettre de Saint Paul à Philémon, alors il s'agissait de l'esclavage, entre autres, et finalement, il ne suffit pas de dire « Ah, l'esclavage, c'était mauvais », on était dans une société esclavagiste. Et lorsque Saint Paul a dit « Je te renvoie ton esclave », en fait, il fait ce que la loi romaine prescrivait. Mais dans le texte qu'il raconte, il explique bien qu'il s'agit de considérer que l'esclave n'est plus un esclave, mais c'est un frère. Et ça, c'est très intéressant parce que ça renvoie exactement à ce que le pape François nous a dit dans Fratelli Tutti. Et ça correspond exactement à l'esprit de l'évangile, de se considérer comme frère. Et je pense par exemple aux Corinthiens où Paul s'emporte contre les Corinthiens qui établissent des classifications les uns avec les autres et il propose de s'attendre les uns les autres quand on prend son repas, par exemple. Donc, on voit l'importance à la fois du texte de la Bible et l'importance de comment nous le recevons, nous, les chrétiens.
Et donc, pour les exégètes aussi d'aujourd'hui, leur fil un peu d'Ariane, c'est dire qu'être chrétien, c'est suivre Jésus-Christ. C'est donc se référer au Christ, mais ce n'est pas tenir compte des gens qui interviennent aujourd'hui dans l'Église.
Alors, les gens qui interviennent aujourd'hui dans l'Église, c'est quand même, si nous appartenons à une Église diocésaine, nous appartenons aussi à l'Église universelle, donc on tient compte de leurs enseignements, mais on tient compte aussi de ce que le Christ dit à chacun d'entre nous. Chaque enfant est baptisé, et chaque personne qui est baptisée est là, part en direct avec l'Esprit Saint, je crois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, vous êtes prêtre, prophète et roi. Même à l'enfant qui a 6 mois et qui reçoit le baptême, ça veut dire qu'il est porteur de l'Esprit Saint en soi.
Et donc la référence principale, c'est bien Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ et c'est comment l'Esprit parle au cœur de chacun, oui.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel.
Raymond avec Isabelle pour les mots de la foi. Alors c'est vrai aussi que dans l'histoire, il y a eu des histoires. Alors on a évoqué dans notre dernière émission le tournant protestant-catholique parce que finalement, la découverte des textes a amené les gens à dire « mais il faut que l'on vive en conformité avec ces textes. Et puis, ils ont trouvé qu'il y avait des décalages entre ce qu'ils vivaient, comment fonctionnait leur Église. Et ça a amené ce mouvement de réforme. Et lorsque le mouvement a été utilisé aussi par les autorités politiques, ça a amené l'aspect politique de la réforme avec ces guerres, ces conflits, cette violence, alors qu'à l'origine, c'était simplement la prise de conscience de la distorsion entre les textes et puis la soif de réforme et le fait que là, au lieu d'en rester à la disputation ou la discussion intellectuelle ou réfléchie sur les textes et ce qu'ils voulaient dire, on a tout de suite utilisé les textes, on a tordu les textes pour leur faire dire ce qu'on voulait qu'ils disent. Et ça, c'est quelque chose qui nous interroge aujourd'hui. Il n'y a peut-être plus l'affrontement catholique-protestant, mais c'est vrai que quelquefois, en présentant les choses, eh bien, on va choisir un texte et pas forcément prendre le texte que l'Église nous donne aujourd'hui, parce que ce texte ne dit pas exactement ce qu'on voudrait qu'il dise. Donc, attention, enfin, je crois que c'est très important de voir comment chacun reçoit, mais en même temps, le fait que chacun reçoit, ça entraîne l'attention à ce que dit l'autre dans la réception qu'il fait. Parce que chacun reçoit, certes, mais il faut vivre ensemble, et c'est ensemble que les chrétiens reçoivent le Christ.
En fait, les protestants, enfin le protestantisme, lui, il s'efforce en fait d'argumenter ses thèses et de justifier l'évolution de son courant.
Ben oui, bien sûr. Chacun, séparément, ont justifié leurs affaires. Et c'est vrai aussi que face à ce qu'on a appelé quelquefois la pastorale de la peur, ou bien cette volonté d'attirer des bonnes œuvres, et les bonnes œuvres, dans certains cas, c'était répondre à la quête de l'Église catholique lorsque on construisait Saint-Pierre de Rome. Tout le monde connaît cette affaire. Là, il y a effectivement l'accent mis par Luther, et c'est intéressant aussi pour nous aujourd'hui, sur ce ne sont pas les bonnes œuvres qui sauvent, c'est vraiment Jésus-Christ qui sauve. Et c'est vraiment la grâce de Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il y a eu effectivement une méconnaissance des uns des autres et des affrontements, alors qu'aujourd'hui c'est plus apaisé et on entend les différents lieux qui finalement concourent à dire « soyons fidèles au Christ ». Et Vatican II là-dessus, c'est le grand tournant.
Voilà. Mais avant, il y a eu le Concile de Trente.
Alors le Concile de Trente, c'est en fait le pendant de ce que Luther a fait, Luther, Calvin, et puis tous les différents protestants dans leur zone, puisque ça aussi, c'est une différence essentielle entre l'Église catholique et puis les protestantismes, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui fait l'unification chez les protestants, encore qu'aujourd'hui, ils essaient dans une fédération de se rencontrer, alors que chez les catholiques, l'unité est faite autour du pape, autour du monde romain. Et du coup, c'est le Concile de Trente qui a impulsé dans l'Église catholique ce qu'il convenait de croire.
Oui, donc il y a eu un réel travail de fait sur la Bible.
Un réel travail de fait sur la Bible, et puis qui s'est poursuivi. Alors c'est vrai que souvent on dit les protestants ont eu la Bible, les catholiques l'ont oubliée. C'est peut-être un peu simplifié, parce qu'il y a toujours eu des gens qui se sont intéressés dans le monde catholique, intéressés qui ont travaillé sur la Bible, sur les évangiles. Mais c'est vrai que cela n'arrivait peut-être pas au peuple chrétien. Et puis il y avait un problème tout simplement de lecture. Qui savait lire, qui pouvait acheter les Bibles, même si elles étaient imprimées maintenant, si elles étaient donc plus abondantes, il fallait quand même savoir lire. Et la lecture, elle ne devient obligatoire qu'au XIXe siècle, enfin l'école. Donc, à plus forte raison, la lecture.
Oui, après, il y a eu donc aussi l'influence de Pie XII.
Voilà, alors Pie XII qui a donné une très grande liberté aux chercheurs sur la Bible. Exégète, théologie, enfin vraiment une grande liberté. Et quelle liberté a finalement abouti à ce qu'au moment de Vatican II, on décide de donner aux chrétiens, aux catholiques, un ensemble de textes beaucoup plus large, puisque les nouveaux lectionnaires de Vatican II intégraient les trois évangiles synoptiques et Saint Jean aussi, dans les textes qui étaient donnés à la messe chaque dimanche. Donc déjà, un élargissement pour donner la Bible à tous, en oui, tout cas à tous ceux qui allaient à la messe.
Oui, parce qu'avant Vatican II, c'était plutôt limité, en fait.
C'était plutôt autour de Matthieu. Et puis bon, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des changements dans la messe après Vatican II, et encore aujourd'hui, il y a quelques beaux restes de ces disputes. Mais effectivement, ça se voyait. Antérieurement, le prêtre tournait le dos au peuple, et puis après Vatican II, il va regarder le peuple. Donc il y a des choses qui se voient, évidemment. Donc c'est autour de la liturgie que les grandes bagarres ont eu lieu. Mais c'est vrai que plus fondamentalement, eh bien, c'est un tournant de liberté qui était en phase avec le monde dans lequel, les années 60, on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale et on arrive vers une époque où, ce ne sont pas encore les débuts de l'informatique, mais maintenant, sur un téléphone portable, on a les textes de la prière du jour et puis on peut aller chercher tel texte ou tel texte. Donc vraiment, il y a une facilité d'accès qui est extraordinaire.
Et donc, ce qui était important aussi, c'est la messe en latin, qui a été un tournant quand même avec Vatican II.
Et oui.
Parce que ça s'adresse quand même au peuple, donc oui. Que ce soit compris de la majorité.
Je crois qu'en effet, le fait de pouvoir dire la messe dans la langue du pays, pour chaque pays, était quelque chose d'important. Et c'était important parce qu'on comprenait les textes de la messe. Moi, je me souviens, enfin, ma grand-mère, elle, à la messe, eh bien, elle disait son chapelet. Et elle venait à la messe, elle se tapait 3 km aller, 3 km retour à pied pour venir à la messe. Mais il n'empêche que, mais elle priait et elle venait à la messe. Et effectivement, ensuite, aller à la messe, ça voulait dire comprendre. Alors, il y avait bien des petits missels, il y avait le latin et puis la traduction française en face. Donc, on pouvait suivre. Mais c'est vrai que ça a été un changement assez visible et important de pouvoir proclamer directement les textes en français. Et nous allons voir justement comment on a évolué et que des textes en français du Vatican II jusque motu proprio de François qui demande qu'on utilise le missel de Paul VI et ces missels récents, sauf autorisation expresse de l'évêque du lieu, eh bien, il y a aujourd'hui encore à saisir les transformations du missel romain. Et ce sera pour notre prochaine émission. Chers auditeurs, eh bien, bonne semaine à tous. Au revoir.